Bonjour, donc je m'appelle Anne-Françoise Molinier. Donc je vais me présenter parce que je vais vous donc faire un exposé sur quelques réflexions sur l'usage des chiffres en santé au travail, qui sont des réflexions issues, disons, d'une longue expérience dans ce domaine, puisque ça fait maintenant pratiquement 35 ans que je suis confrontée à ces questions, à travers à la fois le travail dans des institutions comme le ministère du Travail ou avec Serge Volkoff. Nous avons travaillé sur la conception de la première enquête nationale sur les conditions de travail, sur la mise en place de ce qui allait devenir SUMER, puis des enquêtes avec des médecins du travail comme Estève, comme SVP 50, comme maintenant le travail autour du dispositif Everest. Et je suis aussi, outre statisticienne, un peu ergonome, ce qui veut dire que je suis dans une équipe où il y a beaucoup d'ergonomes, et où on est confronté aux questions du travail dans sa micro-réalité, si je peux dire. Et donc ce travail de va-et-vient entre des approches quantitatives et des approches très fines de l'activité de travail, c'est un peu mon quotidien, et c'est de ça que je vais parler en grande partie dans cette intervention. Donc je vais vous proposer une intervention en trois points. La première partie sera une réflexion un peu générale autour de ce que signifient les opérations de quantification. La deuxième partie sera centrée plus sur quelques questions qu'on peut se poser sur la quantification, assez concrète, la quantification dans le domaine du travail, la quantification dans le domaine de la santé. Je ne ferai pas le panorama complet de ces questions-là, c'est juste pour illustrer un peu cette première partie à travers des exemples concrets. Et en troisième partie, rapidement, quelques éléments de proposition pour une démarche réflexive et une démarche de construction d'outils en santé au travail. Donc, mon point de départ, donc la réflexion un peu générale sur la quantification dans notre domaine. Le point de départ, c'est le fait que, comme vous le constatez quotidiennement, les politiques, les dirigeants en général et les scientifiques aussi, ont les uns comme les autres beaucoup recours à l'argument statistique. La quantification, qui apparaît comme un signe d'objectivité, de rigueur, d'impartialité, est mobilisée dans des situations très variées. Ainsi, la statistique est convoquée tantôt comme un outil de gouvernement qui va permettre de rassembler des descriptions utiles aux décideurs pour fixer des objectifs, définir des cibles, évaluer des politiques, tantôt comme un outil de preuve qui va permettre d'induire, de tester et de généraliser des connaissances à partir des faits observés et de démontrer de manière irréfutable des relations, d'identifier des causes, des conséquences. Dans les entreprises, nous connaissons tous cette appétence pour les chiffres sous des formes diverses. On sait bien que souvent, ce qui n'est pas chiffré n'existe pas. Pour qu'une préoccupation puisse être entendue et légitimée, pour qu'un problème devienne visible, il faut présenter des arguments chiffrés. Il faut avoir des indicateurs pour repérer les problèmes, pour se comparer, pour définir des priorités, pour mesurer les effets des mesures prises, pour évaluer les résultats, etc. Je ne développerai pas tout. La statistique apparaît aussi comme un langage commun. C'est le langage des décideurs, des ingénieurs. Et la quantification apparaît souvent comme un passage obligé pour pouvoir exister en tant qu'interlocuteur crédible et pour pouvoir introduire de nouvelles préoccupations, si l'on réussit par un processus sur lequel nous reviendrons, à les traduire sous forme d'indicateurs susceptibles de figurer dans les tableaux de bord des décideurs à différents niveaux. Ce que je dis des décideurs en entreprise est probablement aussi transposable, par exemple, à l'intérieur des services de santé au travail, ou même au niveau des instances politiques régionales ou nationales dans les domaines qui nous concernent. C'est pourquoi, au début de cette intervention sur l'usage des chiffres en santé au travail, je voudrais attirer votre attention sur cette opération qui n'est pas si anodine que ça, qu'est la quantification, et vous proposer une réflexion qui donne à voir dans la statistique autre chose qu'un outil neutre, incontournable, indiscutable. Donc je m'appuierai ici largement pour cela sur les travaux dans ce domaine qui ont été réalisés par un éminent sociologue de la quantification, qui est aussi statisticien à l'INSEE, qui s'appelle Alain Desrosières. Donc vous voyez que je vais mettre pas mal de citations de lui. Donc, Alain Desrosières souligne que l'usage immodéré du verbe mesurer induit en erreur en laissant dans l'ombre les conventions que suppose la quantification. Il souligne qu'il faut distinguer deux idées trop souvent confondues, celle de quantification et celle de mesure. Comme il le dit là, le verbe quantifier est utilisé dans un sens large. C'est exprimer et faire exister sous une forme numérique ce qui auparavant était exprimé par des mots et non par des nombres. L'idée de mesure, inspirée de l'épistémologie traditionnelle des sciences de la nature, implique que quelque chose existe préalablement et sous une forme déjà mesurable, comme dit Desrosières, selon une métrologie réaliste comme la hauteur de la tour Eiffel. Le verbe quantifier, dans sa forme active, c'est-à-dire faire du nombre, suppose que soit élaborée et explicitée une série de conventions impliquant des comparaisons, des négociations, des compromis, des codages, des procédures codifiées et réplicables et des calculs conduisant à la mise en nombre. La mesure proprement dite vient ensuite comme la mise en œuvre réglée de ces conventions. De ce point de vue, dit Desrosières, il importe de bien comprendre que la quantification se décompose en deux moments, convenir et mesurer. L'usage du verbe quantifier attire l'attention sur la dimension socialement et cognitivement créatrice de cette activité. Celle-ci ne fournit pas seulement un reflet du monde, ce qui est le point de vue usuel, mais elle le transforme en le reconfigurant autrement. La question récurrente de savoir si une statistique reflète plus ou moins bien la réalité, comme on dit, est un raccourci trompeur, contaminé par ce réalisme métrologique des sciences de la nature que j'évoquais précédemment. La statistique, et plus généralement toutes les formes de quantification, dit Desrosières, reconfigurent et transforment le monde par leur existence même, par leur diffusion et leurs usages argumentatifs, que ceci soit scientifique, politique ou journalistique. Une fois les procédures de quantification codifiées et routinisées, leurs produits sont réifiés. Ils tendent à devenir la réalité, nous dit-on, par un effet de cliquet irréversible. Les conventions initiales sont oubliées, l'objet quantifié est comme naturalisé, et l'emploi du verbe « mesurer » vient machinalement à l'esprit et sous la plume. Le fait de distinguer quantification et mesure permet de s'interroger sur la quantification comme un langage spécifique doté de propriétés remarquables. Je recite Desrosières. Elle met à la disposition des différents acteurs ou des chercheurs des objets qui tiennent au triple sens de leur robustesse propre, au sens de la résistance à la critique, de leur capacité à se combiner entre eux, et enfin, de ce qu'ils tiennent les hommes entre eux, en les incitant, ou parfois en les contraignant, à user de ce langage à visée universaliste plutôt que d'un autre. Les objets ainsi quantifiés reconfigurent le monde, ils agissent, en ce sens que les acteurs vont orienter leurs actions par rapport à eux, comme le montrent bien tous les indicateurs qui rythment la vie sociale et la vie des entreprises. Pour en prendre un exemple que vous connaissez bien, parmi les acteurs de l'entreprise rodés au maniement d'indicateurs dans bien des domaines, le chiffre circule, souvent en s'émancipant des réflexions sur sa portée réelle et sur ses conditions d'élaboration. Les taux d'accident du travail en sont un bon exemple. C'est le repère chiffré le plus usité pour évaluer les problèmes de santé et de sécurité au travail dans l'entreprise. Ce rôle, qui leur est dévolu de façon courante, pourrait faire oublier que leur finalité première est la connaissance, et si possible la maîtrise, des dépenses que les accidents occasionnent. Leur diffusion constitue le stade ultime d'un ensemble de procédures de déclaration et de reconnaissance, avec les mécanismes de circularité que cela enclenche. En affichant un taux cible assez bas, une entreprise incite à des actions de prévention, mais en même temps, elle dissuade de fait l'encadrement et les salariés de déclarer les accidents bénins, ce qui change la portée de l'indicateur, on le sait bien. Les chercheurs et les praticiens en santé au travail auraient donc de bonnes raisons de se défier des chiffres, au point peut-être parfois de renoncer à les utiliser ou à les produire. Beaucoup d'entre eux, cependant, estiment que des données quantitatives peuvent amplifier les capacités de comprendre et d'agir. Alors, quel intérêt peut présenter l'usage de la quantification pour des médecins du travail dans le contexte actuel des évolutions du travail? Je dirais que le premier est lié à la persistance dans les pays industrialisés, en France en particulier, d'un niveau élevé de contraintes et de nuisances dans le travail, facteur important d'inégalité sociale de santé et peu prise en compte dans les enquêtes, dans les politiques publiques et les négociations sociales. Les chiffres ont l'intérêt de venir renforcer, en les lestant, si on peut dire, du poids de la quantification, une série de constats qui rappellent, par exemple, que la pénibilité, entre guillemets, puisque on pourrait revenir sur ce terme, du travail, ne relève pas seulement de l'histoire ancienne, ou que les questions de santé ne sont pas indépendantes de ce qui se joue dans le travail. Un second intérêt peut être mis en lien avec la tendance à l'intensification du travail perceptible depuis une vingtaine d'années. Ses effets sur la santé, souvent indirects, sont très variables d'une personne à l'autre et souvent renvoyés au vécu individuel, ce qui rend difficilement visibles les liens entre la santé et le travail. La quantification peut être une des voies, parmi d'autres, qui permet de sortir de cette individualisation accrue des liens entre santé et travail. Un troisième intérêt, selon moi, est lié au fait que pour révéler ces difficultés, fournir des éléments d'appréciation et contribuer à ouvrir des possibilités de transformation, les médecins du travail peuvent ou pourraient jouer un rôle majeur. Or, la quantification, c'est aussi un langage carrefour qui peut aider à donner droit de cité à des préoccupations dans des sphères de discussion ou de décision dans lesquelles, trop souvent, ce qui ne se chiffre pas n'est jamais pris en compte. Je crois que nombre d'entre nous partagent aussi la conviction que les indicateurs auxquels on se réfère usuellement en entreprise quand on parle de santé au travail sont de faible utilité pour étayer ces préoccupations. Comme on vient de le dire, les statistiques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, qui constituent le socle essentiel des évaluations statistiques en santé au travail dans l'entreprise, se posent comme des outils de mesure, alors qu'ils sont entièrement imbriqués avec les pratiques de gestion des risques et de tarification. Quant aux indicateurs issus des rapports annuels fournis par les médecins du travail, ils ciblent probablement plus l'activité mise en œuvre, les visites médicales, les actes paramédicaux, les activités de tiers-temps, etc., que la santé au travail. Toutes ces raisons incitent à une réflexion sur l'articulation entre statistiques et activités des praticiens dans le domaine du travail et de la santé. Il ne s'agit pas seulement de développer un savoir-faire qui se résumerait au respect de critères de validité technique, critères bien entendu qu'il ne faut pas négliger, mais il vise surtout à élaborer, au sein de réseaux d'acteurs dont la composition et l'implication sont essentielles, des démarches de quantification que nous appellerons compréhensives et dont nous résumerons quelques traits dans cette intervention. Donc on peut dire que cette démarche de quantification est une démarche qui est toujours en tension, qui est en tension entre d'une part l'activité du praticien, donc qui peut être le médecin du travail, et dans nos domaines ça peut être aussi l'ergonome, enfin celui qui intervient, qui est d'une part soucieux d'élucider les formes et les déterminants des troubles de santé liés au travail, qui vise aussi des projets de transformation. En ergonomie, c'est clair, on dit comprendre le travail pour le transformer, c'est aussi un de nos objectifs. tenant compte du contexte social, validant sa démarche avec de nombreux acteurs, et une démarche statistique. Toute la question est de savoir comment l'une et l'autre peuvent s'articuler. Une démarche statistique qui soit exploratoire, qui soit compréhensive, qui prenne en compte un ensemble de dimensions de la situation de travail, et surtout qui attribue aux méthodes quantitatives autant de capacités de preuve, mais pas davantage, qu'à d'autres pratiques scientifiques. Donc sur ce point, c'est des choses qui ont été développées ben, notamment par Serge dans un ouvrage qu'on a fait en partie en collaboration, que j'ai cité là. Voilà, que vous trouverez aux éditions Actares si ça vous intéresse. Donc dans cette démarche, pourquoi allons-nous quantifier, en dehors des grandes raisons que j'ai données tout à l'heure, c'est aussi probablement, alors là je me réfère plus au fait d'utiliser par exemple des questionnaires, un outil pour convaincre, je dis, et conforter la capacité de conviction des médecins en entreprise, ce que je disais quand on ne... ce qui ne se chiffre pas n'existe pas trop souvent. Alors parfois on se dit, bah, l'outil statistique faute de mieux, il y a des cas où quand on a affaire à des populations nombreuses, des travailleurs nombreux, des tâches diversifiées, des lieux multiples, des conditions variables. On ne peut pas être partout, mais donc j'ai mis pallier le défaut d'ubiquité. Une approche quantitative sur une population peu nombreuse peut être l'occasion de recueillir des informations sur une population plus vaste que celle qu'on peut voir au quotidien. La statistique pour rendre visible, bien sûr, c'est ce que j'ai évoqué précédemment sur la réflexion générale sur la quantification, pour sensibiliser, pour éventuellement démonter des idées reçues, avoir une lecture critique des outils usuels, montrer comment, selon l'approche qu'on choisit, on peut jeter différents éclairages sur une même question, et que les outils qu'on utilise montrent une seule facette, chacun. La statistique pour confirmer, quand il y a des constats qu'on fait en cabinet médical, par exemple, le fait de pouvoir dire... Ce qu'on a vu là, ça ressemble à des choses qu'on peut voir sur des populations plus vastes. Ça n'est pas qu'un cas isolé. Ça donne du poids et ça permet de confirmer, si l'on peut dire, le constat fin qu'on a pu faire. Un outil pour connaître, particulièrement, moi je suis particulièrement sensible à ce qui se dit dans le champ de l'ergonomie, et les qualités et les difficultés de la myopie congénitale de l'ergonomie. Et je pense que c'est un peu vrai sur la pratique clinique en général, qui est de dire on va voir très très finement un certain nombre de choses, mais on est dans l'ici et maintenant, et on a parfois besoin de pouvoir élargir le champ de vision dans l'espace, au lieu d'aller au-delà du poste observé, de la personne rencontrée, et voir si le constat est vrai sur d'autres postes, si ça se passe différemment, quand on est dans un autre atelier, par exemple. Élargir aussi un outil, élargir dans le temps, donc cette deuxième dimension de la myopie, au-delà de l'observation instantanée, on sait que particulièrement dans le champ de la santé au travail, c'est quelque chose qui est extrêmement important, les effets du travail sur la santé ne sont très rarement que des effets qu'on peut constater simultanément aux expositions et aux situations professionnelles. On sait bien qu'il y a des effets qui sont des effets différés, des effets qui supposent des expositions longues, des effets qui peuvent conduire à une sélection de la population, et il faut se préoccuper aussi bien de ceux qui ont quitté une situation de travail que ceux qui y sont pour pouvoir repérer les conséquences sur la santé. Donc, toutes questions qui ne peuvent pas être abordées simplement dans l'ici et maintenant. Et de ce point de vue-là, la quantification, l'usage de questionnaires, peut apporter des éléments que l'ici et maintenant ne permettent pas de traiter. C'est aussi un outil pour mettre en débat, éclairer la diversité, la graduation des problèmes, les paradoxes. Donc souvent, nous, avec Serge Volkoff, nous disons que la quantification a trois grandes fonctions. La première que j'avais évoquée, qui était de dire, on rappelle qu'il y a des constats pesants et qui sont toujours durablement vrais. Le deuxième, c'est cette histoire de ne pas rester dans la dénonciation, pas simplement dire, bien voilà, tel aspect du travail a tel effet sur la santé, mais de montrer aussi en même temps qu'il peut y avoir dans des situations différentes des modes d'organisation, par exemple, qui font que cet effet sur la santé n'est pas quelque chose de mécanique, qu'il y a des possibilités, en transformant des choses du côté de l'organisation, d'avoir des choses différentes. Distance aussi vis-à-vis du fétichisme du nombre. Ça, c'est quelque chose que vous m'avez vu aborder dans la quantification sur lequel je vais revenir, c'est de pouvoir mettre en discussion ces chiffres. Et donc, c'est ce que je vais reprendre aussi sur des éléments plus concrets de construction des questions. Alors là, j'ai mis très rapidement, mais je pense que je ne vais pas trop le développer, le point de quelle population. Donc là, c'est quelques questions qu'on se pose. Donc c'est ma deuxième partie sur quand on a cette approche de la quantification. Par exemple, que va-t-on faire ? Va-t-on, quand on fait une enquête, prédécouper les populations ? Alors on peut le faire, ça dépend des objectifs de ce qu'on poursuit. Quand on est dans une étude épidémiologique, on a besoin de faire des choses de découpage sur la santé, par exemple dans le cas d'enquête cas témoin, ou d'une caractéristique du travail, en exposé, non exposé. Mais dans l'entreprise, on sait bien que c'est plus compliqué. Les témoins, ils diffèrent des cas par de nombreuses caractéristiques qui sont difficiles à contrôler. Un non-exposé à quelque chose est toujours un exposé à autre chose, et ou un ancien exposé. Et donc, il est extrêmement difficile d'avoir cette rigueur, et il est peut-être important de prendre en compte aussi ces éléments-là. Faire des enquêtes où on a aussi des cas témoins, des exposés, des non-exposés, est une dans la pratique quotidienne, on le voit bien dans nos pratiques en entreprise, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à expliquer sur le terrain. Comment expliquer qu'il y a des personnes auxquelles on s'intéresse plus que d'autres, qu'elles n'ont pas le même statut dans une enquête. Tenir compte des populations telles qu'elles sont, c'est un peu ce que je disais en disant qu'un non-exposé est toujours un exposé à autre chose ou un ancien exposé. La question se pose aussi, que va-t-on quantifier quand on s'intéresse au travail ? Est-ce qu'on va s'appuyer sur des mesures objectives ? Alors ça, c'est une vieille question qui a une longue histoire. Quand on s'est trouvé confronté avec Serge Volkoff à construire l'enquête, la mise en place d'un système statistique sur les conditions de travail, nous avons travaillé sur la base de recommandations d'un groupe de travail du Conseil national de la statistique et qui préconisait notamment de faire un système d'observation généralisé sur poste de travail. Bon, ça n'est pas ce qu'on a fait pour plein de raisons qu'on a pu écrire, développer, sur lesquelles je ne vais pas tout développer. Mais donc la question qui se posait, c'était est-ce que les mesures sur poste ou les dispositifs de cotation vont fournir des résultats plus objectifs, voire plus vrais, avec un glissement de sens toujours, au sens de indépendant des caractéristiques de ceux qui les tiennent. Alors bon, il y a toute une littérature déjà qui est un peu critique par rapport à cette... Il faut regarder de manière attentive. Ça peut avoir un intérêt dans certains cas d'avoir des mesures, des dispositifs de cotation. Il faut regarder de très près les protocoles et les pratiques. Donc je ne vais pas développer ce point-là qui pourrait faire l'objet d'un exposé à lui tout seul. Il faut savoir aussi que pour pouvoir choisir ces mesures, l'observation est nécessaire au préalable pour repérer au moins les principaux facteurs de variabilité. Puisqu'évidemment, on ne va pas mesurer tout le temps. Il peut y avoir des choses qui se passent à des moments précis qui ont des conséquences très très importantes en matière de santé. Et si on observe pendant 10 minutes, une heure, et qu'on n'est pas là au moment où ça se passe, on n'aura pas du tout le point important qu'il aurait été important de noter. De même, quand la diversité des situations de travail est grande, les variables dont la mesure est pertinente ne sont pas les mêmes d'une situation à l'autre, et leur signification change aussi. J'ai repris une petite citation de Serge Volkoff, que j'aime bien, qui est de dire « Les décibels d'une rotative sont-ils assimilables à ceux des cris d'enfants dans une garderie ? Les degrés centigrades ont-ils le même sens pour l'ouvrier boulanger et le maître nageur ? La cadence de base est-elle équivalente selon qu'il s'agit de pots de moutarde ou de renseignements téléphoniques ?»
Oui. J'ajoute une petite pression là sur le temps.
D'accord. Donc, faut-il interroger les travailleurs eux-mêmes ? Ça, c'est une question récurrente. Donc, à ce moment-là, est-ce qu'on aura le ressenti avec le fait que le questionnaire se fonde sur le point de vue de l'opérateur ? Ça, c'est le terme qu'on utilise souvent en ergonomie. Donc, entre autres, sur la perception des effets de son travail sur son organisme, mais aussi on appelle à la perception qu'il a à partir de l'ensemble de son activité. Et de ce point de vue-là, certains ergonomes ont développé un point de vue un petit peu critique par rapport à la notion d'exposition. si ça laisse supposer que les opérateurs sont passifs dans un environnement à risque. On sait bien, et l'analyse ergonomique de ce point de vue-là est très riche, qu'il y a des stratégies qui sont mises en place, il y a des stratégies de protection de la santé, il y a des stratégies au sein du collectif. Et donc, les réponses qu'on va recueillir quand on interroge les travailleurs traduisent à la fois une combinaison de contraintes, mais aussi l'espace disponible pour leur stratégie de préservation. Ça, je vais passer. Dans le domaine de la santé, vous voyez bien que les questions qu'on va se poser dépendent aussi de quelle représentation on peut avoir de la santé et qu'il est important de s'interroger sur qu'est-ce qu'on veut savoir. Est-ce qu'on veut porter une attention particulière aux pathologies ou à l'absence de pathologie, en définissant plutôt la santé comme absence de maladie, en sachant aussi que les pathologies en milieu de travail, je dirais aussi, peut-être à part l'ostéo-articulaire, ne sont pas forcément toujours, en grande partie, facteurs d'exclusion de l'emploi. Est-ce qu'on va porter une attention aux petits troubles, aux douleurs, aux inconforts, aux déficiences légères? Donc, toutes questions qui doivent être précisées et mises en discussion. Est-ce qu'on va se fonder sur des appréciations subjectives, une auto-évaluation de la santé, des questionnaires dits validés, notion qu'il faudrait peut-être mettre en discussion. Est-ce qu'on va questionner directement sur les troubles, avec tout ce que ça représente de fluctuations d'appréciation, d'effets d'enquête? Et puis, bien sûr, comme je le disais, des liens multifactoriels, pour partie différés dans le temps, assortis de mécanismes de sélection. Donc, le principe même de quantification en ce domaine, je vous en ai donné quelques exemples, mérite d'être discuté précisément et avec attention. Et dernier point, sur lequel je voulais revenir, qui était donc construction d'une démarche, il nous semble important, si on adopte ce point de vue d'une démarche statistique articulée avec une compréhension du travail, d'avoir un certain nombre de précautions. La première chose, c'est ce que nous appelons ouvrir la cuisine, au sens de donner largement à voir les modalités de fabrication de l'outil, avoir un effort constant d'explicitation, d'ouvrir un débat, des espaces de débat avec les non-spécialistes du chiffre sur l'opération quantification qu'on est en train de faire, réfléchir aussi, comme je viens de le dire à propos des questions travail et santé, à la façon dont se construisent les appréciations portées par les salariés sur tel aspect de leur travail ou de leur santé, pour préparer le questionnaire, choisir même le croisement des variables, etc. L'attention donc aux populations telles qu'elles sont, ce que je disais tout à l'heure. Un recours maîtrisé à la condensation mathématique. Je dirais que ce n'est pas la peine de compliquer la présentation des résultats, ni les modèles d'analyse, quand cela n'en rend guère l'étude plus riche ou plus rigoureuse. Souvent, des relevés numériques simples sont plus utiles, plus aisés à mettre en débat, ce qui est une préoccupation importante, que des batteries de pourcentage à deux décimales ou des scores à l'architecture sophistiquée. L'usage des valeurs moyennes est peut-être parfois moins pertinent qu'une description à plat, quand la diversité des personnes et des situations de travail est essentielle pour la compréhension. Donc il faut probablement, dans ce cas, réfléchir à des modes de présentation qui à la fois respecte cette diversité et ne noie pas sous une masse de chiffres. Je vais passer au point suivant sur la causalité. Bien sûr, prudence vis-à-vis de la causalité. On connaît un certain nombre de critères, je ne vais pas revenir dessus, c'est bien dans tous les manuels d'épidémiologie, qui confortent une lecture causaliste en santé au travail, de séquence dans le temps, de constance de l'association, la reproductibilité, la force statistique de l'association, relation dose-effet, résultat positif d'une intervention qui supprimerait le facteur de risque. Mais je voudrais insister aussi sur un point, c'est que la causalité, c'est aussi la cohérence avec d'autres connaissances. Et donc, quand vous, médecin du travail, vous lancez dans des opérations de quantification, c'est vous qui construisez les variables et leur place dans l'analyse. Et les associations plus ou moins fortes qui en découlent ne décident pas par elles-mêmes d'un enchaînement causal. Dire par exemple, l'enquête a permis d'établir telle relation mathématique, oui, mais nous puisons dans tel registre de connaissances la littérature physiologique ou psycho, nos observations sur le temps clinique, les entretiens ou le simple bon sens dans certains cas, pour constituer cette relation mathématique en enchaînement causal.
Je vous remercie de conclure.
Voilà, j'en arrive. Donc, sur ne pas attribuer aux méthodes quantitatives davantage d'autorité de la preuve qu'à toutes.